Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Drame dans la commune de Rouachi à Lubumbashi. Deux enfants ont perdu la vie après avoir mangé des beignets. La farine qui a servi à faire ces beignets contiendrait des substances toxiques. Trois autres victimes ont été prises en charge à l'hôpital. Conditions de vie très difficiles pour près de 10 000 déplacés qui vivent sur le site de Kibongi à Komanda, province de l'Ituri. Conséquence, on y dénombre plus de 70 enfants malnutris, dont près de 30 cas d'anémie sévère. Le directeur provincial adjoint de la régie des eaux Mbujimayi est l'invité de ce journal. Il va parler du nouveau groupe électrogène de 550 kVA ainsi que de deux véhicules acquis du gouvernement provincial pour aider la régie des eaux à mieux desservir la population. Bonjour à tous. Deux enfants sont morts dans la commune de Rouachi à Lubumbashi après avoir consommé les beignets. D'autres personnes, dont la vendeuse des beignets, qui en ont aussi mangé, sont admises dans un centre hospitalier où leur état de santé est jugé préoccupant. D'après un membre de la famille de ceux qui sont hospitalisés, citant les sources médicales, cette farine de froment contiendrait des substances toxiques. Retour sur les faits avec Jean Gando.
D'après nos sources, tout a commencé le mercredi dernier aux heures vespérales. Une maman vendeuse de beignets s'est vue proposer par la fille de son voisin un seau de la farine de froment qu'elle a acheté. Quand elle a fini de préparer les beignets, elle est allée voir la fille qui lui a vendu cette farine pour lui signifier que son froment était de mauvaise qualité. Le matin, une cliente s'est présentée pour acheter les beignets. La vendeuse lui aurait dit que ces beignets n'avaient pas bon goût. La cliente en a pris un qu'elle a mangé sur place. Puis, elle amènera avec elle quelques autres beignets pour ses deux enfants. Après avoir consommé ces beignets, ses enfants de 2 et 3 ans ont manifesté les signes de fatigue et sont tombés avant de rendre l'âme. Pendant ce temps, deux autres enfants de la vendeuse de beignets, âgés respectivement de 22 et 16 ans et qui ont aussi mangé ces beignets, ont également manifesté des signes de fatigue avec des difficultés respiratoires. Ils ont tous été conduits à l'hôpital en soins intensifs. Saisi du problème, le parquet a mis la main sur la vendeuse de beignets. Après l'avoir auditionnée, elle aussi a eu le même signe que les autres. Les difficultés respiratoires, le maux des têtes accrues et le maux des ventres. Elle est pour l'instant admise dans un centre hospitalier, tout en étant toujours à la disposition de la justice, indique un membre de sa famille. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
On ne peut pas utiliser abusivement les enfants pour des fins politiques, conformément à l'article 36 de la Convention des droits de l'enfant. Cette déclaration est du réseau des encadreurs sur l'initiation à la participation des enfants, une structure citoyenne qui milite pour la défense et la promotion des droits de l'enfant dans la province du Kwilu. Dans une interview accordée mercredi, son coordonnateur provincial dit avoir constaté malheureusement que pendant la période électorale, plusieurs politiciens utilisent abusivement les enfants pour leur campagne électorale. Pour Martin Guizébou, la place de l'enfant est à l'école et non dans la rue pour applaudir les candidats aux élections, d'où cet appel aux parents à bien protéger leurs enfants. On écoute Martin Guizébou, coordonnateur de cette structure, au micro d'Irène Mbomaluzolo.
Nous, en tant que défenseurs du droit de l'enfant, nous avons toujours constaté que pendant la période électorale, le politicien utilise abusivement les enfants dans des campagnes électorales, dans des faits politiques. Et je me souviens encore, en 2011, un enfant a été piétiné par la foule parce qu'il suivait un candidat président de la République et l'enfant est décédé à cette époque. Et maintenant, c'est le même constat que nous voulons qu'on revive pendant cette campagne électorale. Il commence déjà à venir. Les enfants fuient même l'école pour aller à l'aéroport, dans la rue, en train de toucher les drapelés, en train de suivre le politicien, le candidat député, c'était qui, tout au sort. Aussi longtemps qu'ils vont à la contre de la convention relative aux droits de l'enfant. La seule article 36 qui stipule qu'on ne peut pas utiliser l'enfant pour des faits politiques. Ces enfants que vous utilisez ne sont ni électeurs, ils sont ni éligibles. Alors, c'est pour cela que nous ne voulons plus que les enfants soient utilisés abusivement avant, pendant, même après la période électorale. Le parent, nous devons surveiller nos enfants. Les enfants ont de la place à l'école et non dans la rue. Les élections ne soient pas une occasion pour détruire l'éducation des enfants d'autrui.
En Ituri, plus de 10 000 déplacés installés à Komanda vivent dans une précarité extrême. Environ 10 parmi eux sont morts à la fin du mois d'octobre dernier et plus de 30 enfants souffrent de malnutrition et sont dans un état critique au site de Kibongi. Selon le comité de ces déplacés, les moyens de subsistance sont très réduits en raison des difficultés des déplacés à accéder à leurs champs qui sont occupés par les groupes armés, ce qui accentue leur vulnérabilité. Un reportage d'Isaac Remo rendu par Jean-Claude Lokidi.
Ces déplacés se disent asphyxiés car les moyens de survie sont très limités. L'accès aux champs est difficile même pour les autochtones qui eux aussi vivent dans la misère. Les travaux journaliers qui leur permettaient de gagner un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins et atténuer leurs souffrances sont rares. Conséquence, une dizaine de décès est enregistrée chaque mois et plus de 110 enfants sont malnutris, dont une trentaine très souffrant d'anémie sévère. Seuls les enfants et les femmes enceintes bénéficient des soins accessibles, gratuits aux postes de santé proches du site. D'autres catégories de déplacés sont abandonnées à leur triste sort. Résultat, certaines jeunes filles et même des jeunes femmes décident de déplacer se livrent à la prostitution pour survivre. Une femme déplacée lance un cri de détresse.
Nous mangeons au défaut et de goyaves et des champignons qui poussent dans les déchets des vaches. Tous ces fruits sont finis et même les champignons. Que va-t-on faire pour
vivre? Les humanitaires donnent un petit cash qui, selon les bénéficiaires, ne couvre même pas les besoins d'une semaine de chaque famille. Ces déplacés qui ont fui les atrocités des ADF et espèrent le rétablissement de la paix dans leur village d'origine pour y retourner et reprendre une vie normale. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Dans le même temps, dans le territoire de Béni au Nord Kivu, la société civile des Ringeti demande aux autorités d'autoriser dans un meilleur délai les civils à accéder à leurs champs. Il y a plus d'une semaine, en effet, l'administrateur du territoire de Béni avait demandé à la population des Ringeti, particulièrement les agriculteurs, de quitter leurs champs pour faciliter les opérations militaires contre les ADF. Selon cette structure citoyenne, jusqu'à ce jour, aucune opération militaire n'a été lancée. D'après son président Bravo Vukulu, cette situation impacte négativement la vie de la population qui vit en majorité des activités champêtres. Il est au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Quand il y a une semaine qu'il n'y a rien qui s'est fait, donc la population commence à se poser des questions. Pourquoi on nous a dit de quitter nos chats, mais rien n'est fait. Vraiment, nous voudrions que les autorités puissent nous éclairer, mais aussi voir comment ils peuvent organiser les opérations de grande envergure dans ces entités où ils ont dit à la population de quitter la brousse, leurs chats, puisque la population ne vit que par ce qui revient de ces chats-là. Alors quand on prend une semaine, deux semaines, et qu'il n'y a rien qui est organisé, donc ça risquerait de plonger cette population dans le désespoir. Donc nous voudrons que les autorités nous aident et voir comment ils peuvent fouiller cette brousse, mais aussi autoriser le plus tôt possible à la population de revenir dans leur champ, qui est l'unique moyen de ravitaillement de la population des groupements de bambou bakisiki et des bananes de Kainama.
Restons au Nord Kivu. Une accalmie relative est signalée ce vendredi sur toutes les lignes de front dans le territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo après des affrontements à l'arme lourde et aux bombardements enregistrés toute la semaine dernière sur différents axes opposant d'une part les combattants du M23 et d'autre part la coalition de groupes armés locaux ainsi que les FRDC. Ces récents affrontements ont à nouveau occasionné le déplacement des milliers de ménages éparpillés autour de Goma alors que d'autres se sont dirigés vers des fins fond de Masisi et Rutshuru. Plusieurs sources alertent sur les mauvaises conditions de vie de ces personnes et appellent à une intervention urgente du gouvernement et des humanitaires. Toujours au Nord Kivu, à Goma, un militaire des FRDC a été tué hier soir par justice populaire dans le quartier Ndosho, situé à l'ouest de la ville. Le lieutenant Gasore Rutatura, officier des FRDC, serait de l'unité des blessés de guerre habitant au camp Katindo, d'après des informations recueillies auprès de la police. Cet officier aurait été indexé par la population à cause de sa tenue militaire qui n'était pas réglementaire, d'après les explications de la police, mais aussi il détenait une grenade. C'est ainsi que la foule l'a confondu à un rebelle infiltré et l'incident est arrivé. La police de Karisimbi indique qu'une enquête est ouverte. La police reconnaît aussi la recrudescence des cas de justice populaire accentuée par la situation sécuritaire marquée par la guerre d'agression du M23. D'autres sources renseignent que ce militaire, père de 8 enfants, travaille au sein des FRDC depuis 1997 et il est identifié dans la 34e région militaire. Concernant justement cette situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, le député national Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa sollicite de la plénière l'intervention du premier ministre. L'élu du Nord Kivu s'est dit vivement préoccupé par l'ambiguïté du cessez-le-feu unilatéral, de préférence de solutions de préférence à une solution diplomatique par le gouvernement de la République face à la progression de l'occupation du M23 ainsi que l'aggravation de la situation humanitaire. Jean-Baptiste Mouindo a à cet effet adressé une correspondance hier au président de l'Assemblée nationale demandant l'interpellation du Premier ministre afin d'apporter des réponses à la représentation nationale sur l'évolution de la situation au Nord Kivu et en Ituri. Jean-Baptiste Mouindo est au micro de Michel Kifindangoy.
Alors que l'ennemi avance, préoccupe Bambo, Kichanga, préoccupe Kiloliwe jusqu'aux portes de Sake, lance des attaques aux portes de Goma. Pendant ce temps-là, le gouvernement nous dit qu'il s'attient au respect de cesser le feu. Le porte-parole du gouvernement dit que eux ne sont pas pour l'option de guerre, ils privilégient l'option diplomatique. Et sur le terrain, effectivement, la population se pose la question de savoir si l'engagement du gouvernement est à la hauteur du défi que pose la progression du M23 pour occuper tout ce territoire. Je demande à la plénière de l'Assemblée de faire venir le Premier ministre pour qu'il nous explique à quoi consiste cette préférence de la solution prétendue diplomatique contenue dans l'affaire des routes de Luanda. Je demande à la plénière de l'Assemblée nationale de voter pour que, dans les plus brefs délais, avant la clôture de la session, le Premier ministre vienne expliquer à la nation quelle est la politique réelle de la conduite de cette guerre.
Les femmes des groupements de Kanyola et Izege dans le territoire de Walungu au Sud Kivu ont profondément transformé la vie de leur communauté, des populations en proie à la malnutrition et à la famine. Constat fait par la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Reina Gelani, lors de sa visite dans cette partie de la province du Sud Kivu mercredi dernier. En sa qualité de coordinatrice des Nations Unies en charge de la prévention et de la réponse aux crises alimentaires, Reina Gelani a apprécié le travail abattu sur le terrain par le consortium PAM-FAO-UNICEF pour la résilience des femmes. Reina Gelani rassure la poursuite du soutien de la communauté internationale aux initiatives de ces femmes. Nous devons soutenir les activités de résilience telles que ça se passe ici, a martelé la sous-secrétaire générale dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
I'm here in Walungu in South Kivu and we've been meeting with women.
Je suis ici à Walungu au Sud Kivu et nous avons rencontré des femmes qui sont en train de transformer fondamentalement leur vie et leur communauté. Les agences des Nations Unies et les ONG les ont soutenues ici avec un peu de fonds pour développer leurs moyens de subsistance, qu'il s'agisse de réparer les routes qui les relient au marché, de cultiver ici des produits qui peuvent être vendus sur ces marchés et également de créer des cliniques de santé qui les aident réellement à s'impliquer et à garder les enfants en bonne santé. Elles sont complètement transformées d'une communauté confrontée à la malnutrition et à la faim à une communauté prospère. Les enfants vont à l'école, ils sont en bonne santé et les femmes aident réellement à nourrir leur communauté.
Plusieurs cas de banditisme sont enregistrés ces derniers jours au quartier de la Paix 2 dans la commune de Lukuga, ville de Kalemie, dans le Tanganyika. Face à cette situation, la population accuse certains hommes en uniforme qui gardent des résidences privées d'être à la base de cette insécurité. En réaction, le commandant des opérations militaires Usalama de la 22e brigade de réaction rapide demande à la population de collaborer et de faire confiance au FRDC. Le point avec Paulin Munanga.
D'après le chef d'AVNI au quartier de la Paix 2, les militaires qui gardent certaines résidences tracassent la population. Ils volent les biens des paisibles citoyens et n'hésitent pas à tirer des balles. Face à cette situation, les habitants réclament le départ des hommes en uniforme des résidences privées qu'ils gardent. Témoignage de Joseph Rachidi, chef d'AVNI. Chaque nuit, nous recevons des rapports qu'on a volé ou tiré sur une personne. Il y a 3 jours, vers 21h, un jeune homme a évité de justesse une balle tirée par un inconnu. Une jeune femme d'un ami a aussi évité une balle avant-hier. La nuit d'aujourd'hui, vers 22h, un homme a reçu une balle au niveau du pied. Nous demandons qu'on retire ces militaires dans notre quartier. Après avoir mis la main sur des éléments FRDC mis en cause, le commandant des opérations militaires Usalama de la 22e brigade appelle la population au calme et à collaborer avec les FRDC. Général Dunia Kashindi. Il y a des militaires qui sont transférés à l'auditorat aujourd'hui à cause des balles qui ont été tirées cette nuit. Ils ont été recherchés puis arrêtés. Dans la ville de Kalemie, les balles ne peuvent plus retentir. La population doit aussi collaborer avec les services de sécurité. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
À Bounia, retour donc en Ituri. Une certaine hausse de prix s'observe ces derniers jours sur le marché à propos de certains produits. Il s'agit notamment des produits pétroliers et du ciment gris dont les prix ont galopé. Des opérateurs économiques attribuent cette situation au mauvais état de la route sur l'axe Iga Barrière, Djina et du côté de Kasséni où des dizaines de véhicules sont bloqués. En revanche, le président des pétroliers de l'Ituri parle d'une hausse liée à la nouvelle structure des prix de carburant. Reportage Martial Kizabiamungu.
Les prix d'un litre d'essence à la pompe varient selon les stations-service chez les revendeurs appelés communément Kadhafi. Dans certaines stations-service, un litre se vend entre 3900 et 4000 francs congolais comparativement au début de la semaine où ça coûtait 3500. Des petits revendeurs fixent les prix d'un litre à leur gré. Certains écoulent leurs marchandises à 4300, d'autres à 4500 le litre. Si beaucoup d'opérateurs économiques attribue cette hausse de carburant à l'état délabré de la route Iga Barrière, Djina, où selon et une dizaine de camions citernes transportant du produit pétrolier sont bloqués. Le président du pétrolier lui parle d'un changement de structure du prix publié par le ministère national de l'économie. Par contre, un sac de ciment gris qui s'est vendu il y a plusieurs mois à 12,5 $ se négocie aujourd'hui à 16 $. Ce dernier justifie cette situation par l'effondrement du pont Sona jeté sur la rivière Kisegué à 5 km de Kasséni, empêchant ainsi la circulation de véhicules pendant plusieurs jours. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
L'invité.
Au Kassai oriental, la régie des eaux Mbujimayi a reçu un nouveau groupe électrogène de 550 kVA ainsi que deux camionnettes pour le transport du personnel. Cette dotation a été présentée hier au gouverneur de province intérimaire par le directeur provincial adjoint. Godefroy Njoy Leke, directeur provincial adjoint, en parle au téléphone avec Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour, monsieur Godefroy Njoy Leke. La régie des eaux Mbujimayi a réceptionné un groupe électrogène. En quoi ce groupe électrogène peut-il vous être utile?
Ce groupe-là va être installé dans notre station de repompage de Bakwakapanga qui assure le refoulement de l'eau de l'usine vers la zone haute et la zone moyenne. Les deux groupes qui étaient en service sont tombés en panne. Ça fait des semaines ou plus même. Nous ne savons pas donner de l'eau à cette partie de la ville si NLK ne nous donne pas du courant. Alors avec l'arrivée de ce groupe et surtout aussi avec l'insuffisance de NLK, ça va résoudre beaucoup de problèmes pour que la partie située dans la zone moyenne et haute de la ville soit desservie en eau potable.
Comment ce groupe va-t-il fonctionner étant donné que vous vous plaignez souvent de l'insolvabilité des abonnés?
Un groupe électrogène fonctionne avec du carburant. Mais nous avons bénéficié de l'appui du gouvernement, notamment la présidente de la République qui nous a doté d'une subvention, mais il y a rupture de stock par rapport à ça. Et là, nous nous débrouillons pour fonctionner. Nous pensons qu'avec le temps, le stock du gouvernement va arriver. Entre-temps, nous sommes en train de déployer avec les moyens de bord, c'est-à-dire avec le recette réalisée avec les paiements des abonnés. Alors, c'est-à-dire que si les abonnés ne payent pas, nous avons des difficultés pour fonctionner.
Mais est-ce qu'ils payent normalement?
Malheureusement, non. La population de Mbujimayi ne paye pas correctement l'eau. Même là où nous vendons cash dans les bornes fontaines, les gens s'amusent à frauder. Ils vendent 2 mètres cubes, ils déclarent 1 mètre cube. Ils restent les temps et avec la bénédiction des techniciens de la rue, ils arrivent à régresser les index pour qu'on leur facture ce qu'ils ont consommé faussement. Alors là, ça ne nous donne pas les moyens pour fonctionner. Si les abonnés ne sont pas corrects, nous aussi nous souffrons.
Avez-vous un message particulier pour vos abonnés?
Le message, c'est que les abonnés ils puissent payer leurs factures régulièrement, conformément aux services rendus. Nous facturons correctement par rapport aux services rendus aux abonnés. L'idée, qu'ils s'abstiennent à la fraude. les abonnés mal intentionnés qui fraudent pénalisent les abonnés qui peuvent nous donner les moyens. Malheureusement, ce sont eux qui ont mis en place les moyens de stockage même de l'eau pour revendre à nos abonnés après nos services. Donc, c'est une situation que nous avons dénoncée tant au niveau du gouvernement de la province qu'au niveau même des activistes qui opèrent dans la ville. Nous produisons déjà l'eau qui n'est pas suffisante par rapport à la demande et le prix que nous produisons est volé, si vous me permettez les termes, mais pas l'état civique. Et là, nous n'en savons pas avoir les moyens pour régénérer nos outils de production. Quand le groupe électrogène arrive à Bujumbura, c'est un groupe qui est acheté avec les moyens produits dans d'autres provinces. Et ces moyens-là, ce sont les paiements des factures. Mais pourquoi Bujumbura ne peut pas s'autosuffire pour que on puisse, à notre niveau déjà, penser à renouveler l'outil de production?
Quelle stratégie avez-vous mise en place pour pousser vos clients à payer les factures de consommation d'eau?
Par rapport à ça, madame, je vais vous apaiser. Nous utilisons même les entités décentralisées, notamment, nous utilisons les communes et les quartiers qui nous aident avec des mégaphones à véhiculer l'information en Chiluba, en français. Mais le problème, c'est aussi la réaction de la population. Nous le faisons. Quand je vous parle, là, nous sommes en pleine campagne de recouvrement parce que nous sommes en train de préparer la fin de l'année et nous demandons à nos abonnés de nous soutenir pour qu'on ait les moyens pour les servir correctement.
Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Merci beaucoup, madame.
Et c'est la fin de ce journal, la grande édition de l'après-midi, qui vous a été présentée par moi, Noëlla Luzito. Je vous retrouve à 16h, heure de Kinshasa, pour le bulletin d'information. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi, la radio de la paix.